VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 27 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia.
Et Georges Dion.
Pour commencer, les titres.
Washington critique à nouveau le recours à des machines électroniques à voter pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain.
Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé en appel pour détournement de fonds publics, sera candidat à la présidentielle de 2019.
Au Mali, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, en campagne à Mopti pour l'élection présidentielle de dimanche, a promis la paix dans le centre du pays.
Début du rapatriement des dépouilles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée il y a plus de 65 ans.
Michael Cohen, l'ancien avocat du président Donald Trump, assure que ce dernier avait approuvé une rencontre avec une avocate russe pendant la présidentielle de 2016.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le jour.
Les États-Unis ont renouvelé hier leur critique sur les machines électroniques à voter en République démocratique du Congo. Kinshasa compte utiliser ces machines pour le scrutin du 23 décembre, mais pour Washington, cela représente un risque énorme et inutile. Abdourahman Dia.
L'ambassadeur américain adjoint aux Nations Unies, Jonathan Cohen, a mis en garde contre un système inopérant lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RD Congo. Il réclame un vote avec des bulletins papier. Le diplomate américain se demande ce que feront les autorités congolaises si ces machines à voter, qui n'ont pas été testées, ne fonctionnent pas le jour des élections. En février, les États-Unis avaient déjà parlé d'un énorme risque à utiliser des machines à voter de manière électronique. L'émissaire de l'ONU à Kinshasa, l'Algérienne Leila Zeroughi, a reconnu des progrès significatifs dans le processus électoral, mais elle a déploré dans le même temps la persistance de suspicions et de méfiance au sein de la population, citant notamment le problème des machines à voter. Pour l'ambassadeur congolais aux Nations Unies, Ignace Gatamavita, la machine ne votera pas à la place de l'électeur, mais imprimera les bulletins que l'électeur ira mettre dans l'urne. L'opposition dit ne pas vouloir des machines à voter, soupçonnant le pouvoir de vouloir s'en servir pour frauder.
RDC toujours, Kinshasa est revenu hier soir sur sa décision de ne plus accorder aux Français et aux Belges que des visas humanitaires ou pour soins médicaux au nom de la réciprocité, une décision rendue publique quelques heures plus tôt. Tenant compte du dialogue en cours, notamment sur le traitement de dossiers de visa, les instructions relatives au principe de réciprocité sont retirées, selon un nouveau message du ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, aux ambassadeurs congolais.
De l'autre côté du fleuve à Brazzaville, le ministre congolais de l'Intérieur a reconnu hier que 13 jeunes garçons sont bien morts dans un commissariat de la capitale, comme l'affirmait une ONG. Raymond Zéphirin Mboulou, qui répondait selon l'AFP à une question à l'Assemblée nationale, contredit ainsi la version avancée dans un premier temps par le porte-parole du gouvernement.
Les 13 faisaient partie d'un groupe de 20 jeunes interpellés à la suite du décès tragique le 9 juillet d'un citoyen nommé Julien Obongo dans un quartier de Brazzaville, quand la police a organisé une opération spéciale dans ce quartier pour traquer les délinquants, a-t-il ajouté sans autre précision, à cause d'une commission d'enquête administrative et judiciaire qui a été mise en place.
Au Mali, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, en campagne à Mopti, dans le centre du pays, pour l'élection présidentielle de dimanche, a promis hier la paix dans cette région du pays où les violences intercommunautaires se multiplient depuis 3 ans. Selon l'AFP, le principal rival du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a dénoncé ce qu'il a appelé un centre du pays qui s'embrase avec des violences intercommunautaires qui se déroulent dans un silence coupable. Nous reviendrons avec Kassim Traoré sur l'élection présidentielle au Mali en seconde partie de cette édition.
Au Sénégal voisin, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est candidat à la présidentielle de 2019. Condamné pour détournement de fonds publics, M. Sall a aussi décidé de boycotter son procès en appel pour protester contre la violation de ses droits. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La défense du maire de Dakar boycotte depuis mercredi le procès. Elle reproche à la justice sénégalaise de ne pas appliquer un arrêt rendu le 29 juin par une cour de la CEDEAO. Cette juridiction communautaire a considéré que les droits du maire de Dakar, notamment à la présomption d'innocence et à un procès équitable, ont été violés et jugés arbitraires. Sa détention entre la validation en août 2017 de son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire en novembre. Selon la défense, cet arrêt qui condamne en outre l'État sénégalais à des réparations de 35 millions de francs CFA s'impose à la justice sénégalaise et annule la condamnation. Elle avait présenté sur la base de cette décision une demande de libération de M. Sall rejetée par le tribunal. Le maire de Dakar, qui était absent hier à l'audience de la cour d'appel, a par ailleurs annoncé sa candidature au scrutin présidentiel de 2019. Objectif, redresser notre cher pays, indique-t-il dans une déclaration.
Les dirigeants des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, réunis en sommet à Johannesburg, ont dénoncé hier les défis sans précédent qui menacent le multilatéralisme en réponse, dit-on, à la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Dans une déclaration commune, ils ont fait part de leur inquiétude sur les effets des mesures de politique macroéconomique prises dans certaines grandes économies avancées. Ces mesures peuvent causer une volatilité économique et financière dans les économies émergentes et avoir un impact sur leurs perspectives de croissance, ont-ils notamment prévenu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, affirme que ce dernier a approuvé la tenue d'une réunion pendant la campagne de 2016 entre son fils et une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton, selon des médias américains hier. Donald Trump a toujours prétendu ne rien savoir de cette réunion dont l'existence est avérée et pour laquelle Donald Trump Jr. a été entendu devant le Congrès. Selon le clan Trump, cette rencontre avec l'avocate Natalia Veselnitskaya n'avait rien donné.
La Corée du Nord a commencé à restituer aux États-Unis les dépouilles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée 1950-1953, comme s'était engagé à le faire Pyongyang lors du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, a annoncé la Maison-Blanche jeudi soir. Un avion militaire américain transportant des dépouilles de ces soldats est arrivé vendredi en Corée du Sud, selon les images de la télévision diffusées en direct.
Les officiels américains s'attendent à réunir avec leur famille d'ici à 7 heures temps universel, délai fixé hier par le tribunal, tous les enfants éligibles séparés de leurs parents après leur entrée illégale aux États-Unis. Selon le ministère de la Justice, quelques 700 enfants sont toujours avec le gouvernement et leur sort est incertain. Beaucoup de leurs parents ont déjà été expulsés des États-Unis ou sont considérés dans certains cas comme des criminels ou parents inaptes.
Tension entre la Turquie et les États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé d'importantes sanctions si la Turquie ne libère pas immédiatement un pasteur américain jugé pour terrorisme, au risque d'envenimer les relations déjà tendues avec Ankara, qui a rejeté, je cite, « des menaces inacceptables ». Nicolas Pineau.
Avant-hier, un tribunal turc a décidé de placer en résidence surveillée le pasteur Andrew Brunson, qui était incarcéré depuis octobre 2016. C'est un premier pas bienvenu, mais ce n'est pas assez, a lancé Mike Pence. Selon le vice-président américain, il n'y a pas de preuves crédibles contre lui. Il s'est alors directement adressé au chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan. Libérez le pasteur ou soyez prêts à en payer les conséquences. Si la Turquie ne prend pas des mesures immédiates pour libérer cet homme de foi innocent et le renvoyer chez lui en Amérique, les États-Unis imposeront des sanctions significatives contre la Turquie jusqu'à sa libération, a-t-il martelé. L'administration américaine doit comprendre qu'elle ne peut pas obtenir le résultat souhaité en menaçant la Turquie, a de son côté prévenu la présidence turque. Personne ne peut donner d'ordre à la Turquie. Nous ne tolérerons jamais les menaces de qui que ce soit, a dit pour sa part le chef de la diplomatie turque Mevlut Çavuşoğlu, qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue Mike Pompeo. L'arrestation du pasteur est l'un des nombreux dossiers qui empoisonnent les relations entre Ankara et Washington, alliés au sein de l'OTAN, mais qui ont évité de justesse un risque de confrontation au début de l'année en Syrie. Et la menace de sanctions a de nouveau fait monter d'un cran la tension entre les deux pays.
L'ONU doit se serrer la ceinture. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avertit que son organisation souffre d'un problème de trésorerie, précisant dans un message à ses fonctionnaires préparer des mesures d'économie. Raissa Girondin.
Antonio Guterres précise au personnel de l'ONU que les problèmes de trésorerie n'ont jamais été aussi précoces et la tendance générale est préoccupante. Nous sommes à court d'argent et nous restons dans le rouge plus longtemps. Fin de citation. Ce manque est provoqué principalement par le fait que des États membres ne payent pas ce qu'ils doivent à temps, selon le patron de l'ONU, qui a réclamé à ces pays d'accélérer le versement de leurs contributions au budget de l'ONU. Les Nations Unies comptent deux budgets. Un de fonctionnement, adopté en décembre, d'un montant de 5,4 milliards de dollars sur deux ans, et un pour les opérations de paix, adopté en juin, de 6,7 milliards de dollars sur 12 mois. Selon l'ONU, la pratique de payer avec retard ses obligations financières est courante, mais cette année, la difficulté financière intervient plus tôt que les années précédentes. Selon le site de l'ONU, 122 pays étaient à jour de leurs contributions en juillet. La liste ne comprend pas les États-Unis, premier contributeur à hauteur de 22% du budget de fonctionnement des Nations Unies, devant le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France.
VOA Afrique, fin de ce journal.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Cameroun, la Direction générale des douanes et l'opérateur de e-commerce Jumia ont convenu de collecter les taxes sur les produits importés après leur achat en ligne sur la plateforme. Parallèlement, l'opérateur a obtenu des facilités pour le dédouanement des colis importés pour le compte de ses clients. Jumia est le leader du commerce en ligne au Cameroun. Au Zimbabwe, le secteur privé va investir près $1,5 milliard dans l'enseignement supérieur. C'est pour mettre en place des infrastructures adéquates en vue de permettre le développement d'une éducation de qualité axée principalement sur les innovations technologiques. Il s'agit notamment des installations de recherche, du matériel facilitant l'accès à Internet, des logements pour les étudiants et les enseignants zimbabwéens, ainsi qu'un programme de prêt aux étudiants zimbabwéens pour permettre de financer leurs études. Le financement répond au programme de modernisation de l'économie nationale. Les États-Unis ont accordé à l'Éthiopie environ 170 millions de dollars d'aide humanitaire. Elle porte sur une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence, des abris, de l'eau potable et des soins médicaux vitaux. Il y aura aussi des programmes d'assainissement et d'hygiène pour stopper la propagation des maladies. D'après l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, environ 8,5 millions de personnes seront assistées. Depuis 2016, cette aide porte à 802 millions de dollars.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La quatrième journée de la Ligue des Champions débute ce vendredi.
Avec 2 points en 3 matchs, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud n'a plus droit à l'erreur. Pour repartir du bon pied, il faudra l'emporter face aux Togolais de l'AS Togoport, gonflés à bloc après leur succès surprise face aux mêmes adversaires lors de la 3e journée à Lomé 1-0. Dans le groupe D, l'étoile du Sahel tentera d'accroître son avance lors de la réception de Mbabane. À suivre aussi Primero Agosto Zesco et Difa Jadida en tente Sétif.
Aliou Cissé reste le sélectionneur des Lions de la Teranga.
Oui, la Fédération sénégalaise de football a renouvelé sa confiance à l'ancien international jusqu'en 2019. L'instance nationale du football sénégalais a toutefois établi un nouveau cahier de charges pour le patron des Lions de la Teranga. Aliou Cissé devra désormais atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le sélectionneur des Lions a été félicité pour avoir atteint 2 objectifs intermédiaires, les quarts de finale de la CAN 2017 et la qualification en phase finale de Coupe du Monde.
Des nouvelles du marché des transferts, André Ayew débarque en Turquie.
L'international ghanéen de 28 ans rejoint Istanbul où il doit passer une visite médicale avant de signer officiellement avec Fenerbahçe. Le club turc, entraîné par le néerlandais Philippe Kokou, a annoncé la signature d'un accord avec Swansea pour un prêt d'un an avec option d'achat, sans fournir davantage de détails. Ayew y retrouvera notamment l'ex-international français Mathieu Valbuena, avec qui il a joué à l'Olympique de Marseille.
Rodriguez, lui, doit payer 11 millions d'euros pour fraude fiscale.
Le milieu de terrain colombien du Bayern Munich devra payer pour avoir fraudé le fisc en Espagne quand il jouait au Real Madrid. James Rodriguez, cédé au Bayern par le club merengue l'an dernier, doit s'acquitter de 6,35 millions d'euros au titre des impôts sur ses droits à l'image, auxquels s'ajoutent une sanction et des intérêts. Transféré au Real Madrid en provenance de Monaco pour 80 millions d'euros, mi-2014, James avait fait sa déclaration fiscale en tant que non-résident. Mais selon le quotidien espagnol El Mundo, le fisc a considéré qu'il aurait dû le faire comme résident.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, 30 000 hommes seront déployés sur l'ensemble du territoire pour sécuriser l'élection du 29 juillet prochain. 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour départager 24 candidats à travers 12 000 centres de vote. Mais certains candidats continuent de contester le fichier électoral et d'aucuns estiment que la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Cette présidentielle ressemble à un saut dans l'inconnu. Les Maliens prient pour une issue errée du scrutin du 29 juillet prochain. C'est pour cela que les associations de la société civile multiplient les appels au calme. Bamoussa Touré, coordinateur et chef de quartier de Bamako.
Ils sont tous des hommes et une femme là-dedans, qui sont tous animés d'un désir de se rendre utile à ce pays d'une certaine manière. Donc nous avons cru devoir appeler tout le monde, conjuguer les efforts, les volontés, surtout pour que l'élection soit une élection transparente, une élection crédible et une élection apaisée.
La situation sécuritaire au centre et nord du pays inquiète plus d'un Malien. Amadou Touré, habitant de Mopti.
Quand je dis l'insécurité, cela veut dire que la population n'est pas sécurisée à 100% et de nos biens. Donc à chaque fois que nous voyons des djihadistes qui viennent, n'importe comment, à chaque fois ils nous amènent des plans pour nous attaquer, ils tirent nos soldats, les civils. Hein? Non, ce n'est pas les militaires seulement qui sont visés, même les civils sont visé par la sécurité en question, mais il faut attiser l'administration, parce que l'administration qui est là pour travailler, pour pouvoir donner le matériel nécessaire pour pouvoir travailler, ne fait pas son travail.
Pour le Premier ministre, des dispositions sont prises. 30 000 forces de sécurité seront déployées le jour du scrutin sur l'ensemble du territoire. Soumaïlou Boué Maïga, Premier ministre du Mali.
Actuellement, nos forces de sécurité sont parvenues à répondre aux besoins exprimés par un certain nombre de candidats pour leur sécurisation. Le 29, on aura sécurisé 12 925 centres de vote. Donc ça vous donne une idée des moyens humains et matériels à déployer. Bon, mais pour le moment, pour les exposés qui m'ont été faits, pour la réalité que je sais aussi du terrain, je pense que nous sommes en capacité de faire face à un éventail assez large de cas de figure aussi.
Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, tout est fin prêt pour le faire. Baba Haman Maïga, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Les derniers documents qui devaient être positionnés étaient les documents électoraux, notamment les bulletins de vote. Je peux vous affirmer qu'à la date d'aujourd'hui, tous les bulletins de vote sont arrivés à destination. On explique aux différentes représentations de l'État et aux ambassadeurs et aux consuls de les positionner au niveau des centres de vote et des bureaux de vote pour les deux jours qui restent. Nous avons atteint pour la première fois un taux satisfaisant de 73% de remise des cartes électorales, qui n'est insoupçonnable au début des opérations le 20 juin.
Les candidats multiplient les actions en ces derniers jours. Tous les candidats se préparent à tenir leur meeting de clôture, soit dans les régions ou dans la capitale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, grogne du personnel soignant à N'Djamena après l'expiration de son préavis de grève pour protester contre les nominations à des postes techniques au ministère de la Santé publique. Il avait promis d'organiser jeudi matin un sit-in devant le ministère de tutelle. Ce sit-in a été interdit par le ministre en charge de la sécurité publique pour, je cite, « vice de procédure ». André Kodma-Djingar, correspondant de VOA Afrique au Tchad, fait le point.
À défaut d'organiser le sit-in, les hommes en blouse blanche se sont retrouvés au siège de leur organisation et ont improvisé une assemblée générale extraordinaire. Non à l'usurpation du titre de docteur, non à la médiocrité, sauvons le système de santé au Tchad, non à la déstabilisation du corps médical, tels sont les slogans qu'on peut lire sur les banderoles imprimées pour la circonstance. Selon les médecins, les décrets 14-14 et 14-15 portant nomination à des postes de responsabilité signés du président de la République en date d'ici juillet dernier comporte trop de lacunes. Ils tiennent pour responsable le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, et exigent sa démission. Dr Haroun Barwa est le président du syndicat des médecins du Tchad.
À l'unanimité, on a demandé le départ du ministre de la Santé et dans un deuxième temps, de maintenir la pression en faisant des grèves sèches perlées chaque mercredi. Et nous avons demandé aussi une désobéissance de nos camarades dans les délégations où se trouvent à leur tête des administrateurs sanitaires tels que la délégation de N'Djamena et de Wadi Fira, d'observer aussi une obéissance. Nous demandons la révision des plans de carrière. Il faut que ça soit urgent.
Pour les autorités en charge de la santé publique, ces nominations contestées par les corporations médicales respectent bel et bien le plan de carrière des agents de 10 départements. Mais Dr Didi Ali Sougoudi, secrétaire général du syndicat de médecins du Tchad, estime pour sa part que ces nominations actuelles prêtent à confusion.
Un, le document n'a pas été bien étudié et validé. Et de deux, aujourd'hui, certains décrets n'ont pas respecté le contenu. Les médecins ont demandé de négocier avec les ministres pour trouver une porte d'issue le plus rapidement possible. Déjà, les Tchadiens en souffrent beaucoup de notre système de santé et nous devons nous battre pour que le système soit meilleur.
Le malaise au sein du ministère de la Santé publique, Madame la ministre sortante du dit département l'a reconnu en fin d'année 2017. Garbatna Carmel Soukatre avait plaidé en son temps pour la dépolitisation du ministère de la Santé publique.
Certaines personnes rentrent dans le système de santé au nom de la géopolitique parce qu'ils appartiennent à un parti politique. C'est cela que j'appelle les recommandé non recommandable. À mon âme et conscience, je ne fonctionne pas dans cette logique parce qu'on ne peut pas vous recommander quelqu'un d'inefficace et dire que nous sommes partis au pouvoir, nous allons recommander des cancres qui vont nous tirer vers le bas, ça c'est non.
Juste après cette déclaration, elle a été éjectée du gouvernement en janvier 2018. Contactée par VOA Afrique à travers son service de communication, l'actuel ministre de la Santé publique a un calendrier trop chargé. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, un centre de formation pour enseignants et coaching parental basé à Dakar regroupe et forme des pères et mères de famille soucieux d'apporter une éducation fondée sur des rapports de compréhension, d'amour et d'empathie envers leurs enfants. Cette structure, dénommée « Ma famille créative », est à l'initiative du Salon du jouet éducatif et de la poupée noire qui vise à optimiser l'éducation des enfants africains, nous dit notre correspondant sur place, Seydina Abagay.
Le concept de la poupée noire a été lancé au Sénégal par Ituma Seba. Cette citoyenne de l'Afrique veut éviter que les enfants grandissent dans la confusion totale de leur propre identité. Pour elle, jouer avec une poupée blanche crée des complexes qui plus tard auront des conséquences désastreuses chez les enfants africains.
On peut pas éduquer un enfant en lui présentant une image qui est totalement contraire à ce que l'enfant voit dans le miroir. Donc on s'est rendu compte que le marché de la poupée noire était un marché un peu rare, existant en Afrique mais un peu rare. Donc les parents avaient peu accès à la poupée noire et on s'est dit que il fallait qu'on apporte cet élément dans le jeu des enfants.
Pour valoriser les capacités des enfants africains, la structure Ma Famille Créative veut aussi promouvoir le jouet éducatif avec des objets traditionnels. Khadim Ressoul Nying, inspecteur de l'enseignement élémentaire et ancien directeur du centre de formation pédagogique de Dakar, affirme que le jeu permet à l'enfant d'assimiler certaines connaissances scientifiques.
Le jeu a une valeur éducative considérable. Il est une scène gymnastique de l'esprit. En jouant, l'enfant, certes, joue, mais il pense, il réfléchit, il analyse, il fait des synthèses. L'analyse et la synthèse, ce sont les deux corollaires qui nous permettent de mesurer l'intelligence d'un enfant. Et en jouant, l'enfant, certes, s'amuse, mais il travaille. C'est maintenant qu'on s'est rendu compte que le jeu n'est pas une chose frivole.
Le jeu éducatif et la poupée noire ont aussi pour but d'aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. Sandrine est parent d'élèves. Elle estime que la poupée noire permet aux enfants de mieux accepter leur culture.
L'impact, il est flagrant. Il est flagrant parce que quand j'ai donné pour la première fois une poupée à ma fille, une poupée noire, c'était l'occasion de justement, en parlant avec elle, de l'aider à aimer ses cheveux crépus, parce que ça permet à l'enfant de s'aimer lui-même. Donc c'est important pour sa propre perception de sa culture et de son identité.
La structure Ma Famille Créative a pour principal objectif de faire la promotion de l'éducation bienveillante et créative en famille d'une part, mais également en formant les enseignants et parents à des méthodes appropriées. Les promoteurs comptent multiplier cette aventure dans toute l'Afrique. Ils veulent que l'idée séduise ici au Sénégal et partout en Afrique noire pour que les enfants ne grandissent pas dans la confusion totale de leur identité. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Trêve dans les tensions commerciales entre Washington et Bruxelles, les deux partenaires ont désamorcé la crise née des tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Et le président américain Donald Trump et le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker ont convenu de supprimer la quasi-totalité des tarifs douaniers et une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie. Ces mesures doivent toutefois encore être formalisées. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris Marie-Cécile Nave de l'IRIS.
Je crois que le recul, il faut vraiment le relativiser parce que ce n'est pas la première fois que dans des négociations internationales, Trump prend une décision et puis elle peut être remise en cause dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, l'Union européenne et la délégation française au G20 est très présente. Et deuxièmement, je crois que c'est moins les menaces de représailles européennes qui ont abouti à ce résultat que les enjeux de politique intérieure aux États-Unis, puisque les républicains qui remettent leur siège en jeu pour les midterms sont assez inquiets d'un protectionnisme international et parce qu'un certain nombre de grandes entreprises ont manifesté leur mécontentement, ainsi que le secteur agricole. Et d'ailleurs, Trump a été contraint d'annoncer des aides pour le secteur agricole ces derniers jours. La question, c'est plus le contexte interne à quelques mois des élections intermédiaires.
Ils ont affiché la volonté d'aboutir au tarif zéro, est-ce que vous pensez que c'est possible?
Nous verrons pour l'instant. Il faut vraiment toujours se méfier avec Donald Trump des déclarations d'intention. Il faut voir comment ça se concrétise, comment l'engagement va se concrétiser. D'autant qu'ils ont dit qu'il n'était pas question de mettre en place un nouvel accord commercial européen qui remettrait complètement en cause tout ce qui existe et qui serait un nouveau TTIP, un nouvel accord transatlantique. Mais il y a la volonté aussi des deux parties, visiblement, de travailler ensemble sur la rénovation, la réforme des principes de l'OMC. On est sans doute dans un contexte de court terme et il faut voir ce qui va se passer à l'automne.
En termes de timing, combien de temps un accord pourrait prendre?
Ça peut prendre des mois, ça peut ne jamais voir le jour non plus. Probablement qu'on est là sur le long terme, plusieurs mois, je dirais. Parce que rien ne va se décider avant les élections de mi-mandat.
Est-ce qu'une solution gagnant-gagnant est possible? 50-50, disons?
Le problème, c'est que ça ne concerne pas les mêmes pays en Europe. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a dit qu'il n'était pas question d'aller vers un ultralibéralisme dans des importations massives des produits agricoles américains, notamment le soja, génétiquement modifié, parce qu'il sait très bien que ce serait une mesure extrêmement impopulaire en Europe et en France. Donc, difficile d'être dans une perspective gagnant-gagnant. Ça va être difficile parce que d'un côté, vous avez les États-Unis, de l'autre côté, vous avez l'Union européenne, mais avec des intérêts divergents d'un pays à l'autre. Et si l'Union européenne parvient à se mettre d'accord entre elles sur les mesures qu'elle est prête à accepter de la part des États-Unis, bien, c'est un peu un défi pour elle. Mais pour l'instant, ça paraît compliqué du fait qu'il n'y a pas une seule voie européenne. Il n'y a pas une seule voie européenne. Or, les déclarations d'intention de Jean-Claude Juncker, mais pour l'instant, on en est vraiment au grand principe théorique.
C'était Marie-Cécile Nave de l'IRIS à Paris. Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Dave Magnès. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Et Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.